Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. La campagne pour l'élection présidentielle à 78 jours du premier tour avec plusieurs meetings aujourd'hui. Anne Hidalgo à Aubervilliers assure qu'il n'y aura pas d'élection sans les socialistes. Nous serons à Aubervilliers dans un instant et à Cannes ce soir. Dans la guerre des nerfs à l'extrême droite, Éric Zemmour est accompagné par Gilbert Collard qui a claqué ce matin à la porte du Rassemblement National. Dans ce journal également, la mobilisation des antipasses à 2 jours de l'entrée en vigueur du pass vaccinal, la crise en Ukraine avec des armes américaines livrées à Kiev. Et puis en rugby, les dirigeants français en colère ne comprennent plus rien aux règles sanitaires du rugby européen. Le temps pour demain, la grisaille continue de s'imposer sur la moitié nord. Jean-Michel Kolinski à la fin de cette édition.
France Inter.
La politique ce samedi donc avec le meeting d'Anne Hidalgo à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. La candidate socialiste à l'élection présidentielle est passée à l'offensive à la peine dans les sondages entre 2 et 4% des intentions de vote. Anne Hidalgo a refusé de se résigner face aux prophètes de malheur qui voudraient qu'elle abandonne. Sur place à Aubervilliers, Claire Flochel.
La candidate revient sur son parcours semé d'embûches. À chaque échéance, on m'a donné battue, exclue, illégitime. Elle met en avant sa réussite et répond à ceux qui voudraient la voir s'effacer de l'élection.
On voudrait que je me résigne, que nous nous résignions devant la difficulté. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis... Mais dans vos rêves !
Anne Hidalgo rappelle les grandes réformes menées par le PS, de l'abolition de la peine de mort aux 35 heures, en passant par l'accord de Paris sur le climat. La candidate égrène ensuite quelques-unes des 70 propositions de son programme, telles que l'augmentation du SMIC de 15%. Anne Hidalgo est aussi revenue sur la primaire populaire, après, rappelons-le, plusieurs revirements de situation quant à sa participation potentielle.
Il faut malheureusement le dire, sans la participation des Verts, la primaire de la gauche a perdu tout son sens. Et cette élection avant le premier tour qui devait nous unir, ils ne l'ont pas voulu. Alors, la page est tournée, je défendrai notre projet et les Françaises et les Français trancheront.
La non-participation du candidat écolo Yannick Jadot n'est visiblement toujours pas digérée.
À Cannes, changement d'ambiance avec le meeting ce soir d'Éric Zemmour qui est en train de marquer des points à l'extrême droite avec le ralliement ce matin de Gilbert Collard, l'ancien ténor du Rassemblement National de Marine Le Pen. Et ce soir, aux côtés d'Éric Zemmour lors du meeting de Cannes. À droite, Valérie Pécresse a officiellement reçu le soutien des centristes et le Conseil National de l'UDI lui a également accordé son soutien. Enfin à gauche, Fabien Roussel veut rendre le permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans. Le candidat communiste doit dévoiler après-demain lundi, son programme axé sur le pouvoir d'achat et le travail. À 2 jours de l'entrée en vigueur du pass vaccinal, des milliers d'opposants aux mesures sanitaires et plus globalement aux vaccins contre le Covid ont manifesté à Paris et partout en France. Les manifestants ont dénoncé notamment l'apartheid imposé selon eux par le gouvernement entre vaccinés et non vaccinés. Reportage à Paris, Alain Gastal.
Ça va ou pas ? Est-ce que les résistants sont toujours aussi survoltés que leur réputation ?
Et ils étaient plusieurs milliers, presque tous sans masque, à passer la scène pour Mirabeau, pour tenter de gagner le ministère de la Santé dans la foule des drapeaux tricolores et des slogans contre le pass et contre le gouvernement. Philippe est venu avec quelques amis.
Ce qui fait du bien, c'est de voir des gens sans masque, c'est de voir des gens sourire, c'est de voir des gens qui vivent. Et puis, dans cette manifestation, il n'y a pas de fascistes. Moi, je suis d'origine polonaise, mes grands-parents, mes parents ont travaillé à la mine pour la France. Et on n'est pas fasciste.
Et même si à partir de lundi, la vie sera encore plus compliquée pour les non-vaccinés, la manif se voulait plutôt optimiste. Alain et Anne sont persuadés que l'épidémie se termine, sonnant ainsi la fin des restrictions.
On sait maintenant que le virus, surtout le Omicron, n'est pas si dangereux que ça. Il est contagieux, certes. Moi, comme ça, tout le monde va être immunisé.
Je ne suis pas vaccinée et je mets très très rarement le masque. Quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde entier, je pense que bientôt, nous allons connaître la liberté.
Et la manif s'est terminée avenue de Ségur, sous les fenêtres du ministère d'Olivier Véran.
Son temps au pouvoir est bientôt fini. L'avenir est à nous.
Les violences qui secouent la Guadeloupe depuis près de 3 mois, violences sur fond de contestation de l'obligation vaccinale, ont été parfaitement planifiées et organisées avec notamment l'implication active d'un fonctionnaire de police, c'est ce qu'a affirmé la nuit dernière le procureur de la République à Pointe-à-Pitre. Selon Patrick Desjardins, aucune scène de violence n'a été spontanée. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Et une information judiciaire a bien sûr été ouverte.
Ces violences de novembre et décembre dernier ont été orchestrées par des
bandes de jeunes qui se sont entendus pour semer la panique avec l'aide d'un policier du commissariat de Pointe-à-Pitre qui leur a fourni des renseignements. Selon le procureur, l'objectif était d'extorquer de l'argent à de grandes entreprises locales pour que les émeutiers ne s'attaquent pas à elles, mais aussi d'obtenir des subventions auprès de certains élus locaux avec lesquels ces bandes organisées entretiendraient des relations parfois troubles, des agissements qui ne surprennent pas vraiment Victorin Lurel, le sénateur socialiste de Guadeloupe au micro de France Info.
On a laissé prospérer des gangs. Il y a encore en Guadeloupe trop d'élus complaisants au nom d'une certaine jeunesse. Oui, il y a une jeunesse, il faut s'en occuper, qui est désœuvrée, qui a des problèmes, qu'il faut réinsérer, etc. Mais il y a manifestement des trafics qui se font. Aujourd'hui, l'État a décidé de mettre au grand jour ce qui se fait depuis déjà un certain nombre de temps.
Du côté des syndicats, certains dénoncent au contraire une manœuvre de l'État pour discréditer le mouvement social, à l'image d'Elido Motta, l'un des leaders du LKP à l'origine de la contestation.
En 2009, on nous avait fait exactement la même chose. Chercher à ternir l'image de la mobilisation, chercher à ternir l'image de la jeunesse, en faisant croire à la population que c'était un mouvement mafieux qui est derrière les revendications des travailleurs et des peuples de Guadeloupe. Et là, on est en train de nous jouer le même scénario.
À ce stade de l'enquête, 8 personnes ont été mises en examen. Plusieurs responsables syndicaux guadeloupéens leur ont d'ores et déjà apporté leur soutien.
Yann Galik, merci. La crise en Ukraine et la menace militaire russe qui pèse sur ce pays. La rencontre hier à Genève entre Russes et Américains n'a pas permis d'apaiser cette crise. Et sur le terrain, face aux vastes manœuvres militaires russes, un premier convoi de plusieurs tonnes d'armes américaines est arrivé en Ukraine. À New York, Loïc Loury.
90 tonnes de matériel militaire et notamment des munitions destinées aux soldats du front, dit l'ambassade américaine de Kiev. Ce premier chargement est arrivé hier soir en Ukraine et il y en aura d'autres pour un total de 200 millions de dollars d'aide récemment approuvés par Joe Biden afin de renforcer, dit Washington, les défenses ukrainiennes face à l'agression croissante de la Russie. Après les pourparlers d'hier, substantiel, affirme Anthony Blinken, Washington ne baisse pas la garde face à la Russie, porte-avions américains. Ainsi participera dès lundi à des exercices de l'OTAN en Méditerranée. Ces derniers jours, les États-Unis ont multiplié les mises en garde à l'égard du Kremlin, promettant une réponse sévère en cas d'invasion, tout en restant dans le flou quant aux intentions réelles de Vladimir Poutine. « Je pense qu'il ne veut toujours pas d'une guerre à grande échelle », affirme Joe Biden. « Mais je crois, dit le président américain, qu'il va tester l'Occident. » New York, Loïc Loury, France Inter.
En rugby, les matchs de Coupe d'Europe annulés les uns après les autres. Match perdu pour Toulouse face à Cardiff et pour Bordeaux qui devait se déplacer à Leicester. Et aujourd'hui, la rencontre entre le Racing 92 et Northampton a également été annulée pour cause de cas de Covid. Le Racing, déclaré vainqueur, se qualifie pour les huitièmes de finale. En revanche, Toulouse pourrait être éliminée. Les règles du rugby européen sont à n'y rien comprendre pour les responsables du rugby français qui crient à l'injustice. Et le président de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel, parle, lui, d'une Coupe d'Europe faussée. René Bouscatel, en colère avec Winnie Claret.
La réglementation de l'EPFR prévoit que l'on applique à chaque club les règles sanitaires de son pays. Les règles sanitaires de la France, c'est la possibilité pour le club de présenter une feuille de match compétitive de 23 joueurs. C'était le cas du Stade Toulousain. Et donc ce match, non seulement pouvait, mais devait se tenir.
Vous estimez que l'EPFR s'est discrédité avec ses décisions ?
Complètement. Non seulement elle s'est discréditée, mais elle a créé une crise institutionnelle au sein de l'EPFR. Il faudra mettre les choses à plat. Je trouve inadmissible de ne pas avoir encore d'explication au fait qu'on n'a pas respecté les règles.
Voilà, oui, René Bouscatel, le président de la Ligue nationale de rugby avec Winnie Claret. Et les règles, elles sont plus claires en handball avec le championnat d'Europe en Hongrie. L'équipe de France masculine affronte en ce moment l'Islande. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Frédéric.
En direct de Budapest et les Français sont bousculés.
Ah oui, plus que ça, puisqu'ils sont menés de 8 buts à un quart d'heure de la fin de cette partie. Il y avait moins 7 à la pause. Les Islandais qui ont malmené cette équipe de France, une équipe de France privée de son axe défensif. Après le forfait de Luka Karabatic avant l'Euro, il y a eu Karl Konnan, l'un des défenseurs axiaux mis à l'écart, en tout cas à l'isolement à cause du Covid mardi. Et puis on a appris aussi le forfait aujourd'hui de Ludovic Fabregas, qui est aussi l'un des défenseurs principaux de cette équipe de France. Eh bien, elle a été complètement trouée, cette équipe par des Islandais qui eux-mêmes avaient été décimés par le Covid, puisque là il y a 6 forfaits dans cette équipe, mais c'est l'Islande qui s'en est mieux sortie pour l'instant, Frédéric, dans cette partie, hein, qui est le deuxième match du tour principal. Les Français avaient remporté le premier face aux Pays-Bas, les Islandais avaient perdu le premier face au Danemark. On assiste à un regroupement général en tête de ce groupe, et donc la qualification pour les demi-finales qui aurait pu être quasiment acquise ce soir en cas de succès des Bleus est plus hypothétique maintenant. Et surtout, on va savoir aussi à quelle sauce va être mangée cette équipe de France en termes de Covid, parce qu'il faudra rappeler aussi que l'entraîneur Guillaume Gilles regarde ce match à la télé dans sa chambre d'hôtel à Budapest, parce que lui aussi il a été placé à l'isolement hier. Donc pour l'instant, eh bien toujours plus 8 pour les Islandais à moins d'un quart d'heure de la fin du match.
Merci Jean-Pierre Blimeau. On était sans nouvelles du baroudeur de 75 ans Jean-Jacques Savin, et son corps sans vie a été retrouvé ce soir dans son canot. L'aventurier de 75 ans, le Girondin Jean-Jacques Savin, tentait de traverser l'Atlantique à la rame. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis vendredi. Son corps a donc été retrouvé au large des Açores. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Et à l'occasion des Nuits de la Lecture, jusqu'à demain soir, partout en France, vous avez cherché les meilleures applis gratuites de recommandation.
Alors parmi toutes ces applications de recommandation de lecture, il y a bien sûr Babelio, qui est le réseau le plus important et le plus ancien en France, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont créés depuis. C'est le cas de Glyph, qui arrive récemment sur le marché et dont l'objet est de diriger les livres vers les lecteurs qui les liront. Comment faire cela? Voici la réponse d'un de ses fondateurs, Khalil Mouna.
On propose à des éditeurs et à des revendeurs de livres le bon lecteur. Nous, on le sait, parce qu'on a une connaissance très très large des bibliothèques de nos lecteurs. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait 400 000 abonnés, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les 400 000. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté 18 millions de livres. Donc on a une connaissance de la grande bibliothèque de 18 millions de livres répartis dans les salons des Français. Si l'éditeur nous dit « je veux promouvoir tel titre », nous, on va analyser votre bibliothèque et on va se dire « ah, peut-être qu'il n'y a pas exactement le même auteur ». Mais ce qu'on sait, c'est que ce lecteur-là ressemble beaucoup à d'autres lecteurs qui, eux, aimeraient bien votre titre. Donc on va faire des rapprochements entre lecteurs.
Précision, Christine, que Glyph s'écrit avec deux E et PH à la fin. Alors ceci dit, que se passe-t-il quand on entre dans l'appli, Christine?
Quand on devient utilisateur de Glyph, on scanne les codes barres qu'on a chez soi. On peut commenter ses lectures, faire des classements, comme le fait l'un des utilisateurs tout particuliers de Glyph, l'auteur Alexandre Jardin.
Alexandre Jardin a son compte et il crée des étagères des livres qui l'ont rendu fou. Et on peut s'abonner à cette étagère-là et voir à chaque fois ses lectures.
Si l'on veut lire le même livre qu'Alexandre Jardin, on peut aussi savoir, grâce à Glyph, s'il est disponible dans une librairie à côté de chez soi.
Alors, qui sont les adeptes de Glyph?
Alors, les utilisateurs de cette application, eh bien, sont plutôt jeunes, vous allez voir, c'est ce que dit Khalil Mouna. Ils ont entre 18 et 30 ans.
À notre grande surprise, ils lisent de tout. Il n'y a rien de plus nouveau comme lecture qu'un titre des années 90 pour un jeune aujourd'hui. Parce qu'il ne l'a jamais vu passer, il n'en a jamais entendu parler. Donc, ils lisent de tout et ils découvrent beaucoup.
Alors l'avenir de Glyph serait de dépasser les 400 000 utilisateurs, évidemment. Il vise 1 million d'adeptes pour l'année qui vient. Par comparaison, Babelio, c'est environ 2,5 millions d'utilisateurs.
Ma Vie Connectée, Christine Siméon, à retrouver sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Peu de changements demain au niveau du ciel et des températures, avec à nouveau du soleil de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, et une ambiance souvent plus terne, plus grise sur toute la moitié nord du pays. Une grisaille qui, si l'on en croit les modèles de prévision, devrait se morceler du Finistère au Pays de la Loire et du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Les températures nocturnes, généralement positives au nord de la Loire et au nord de la Seine, vont à nouveau descendre fortement sur un large quart sud-ouest jusqu'à moins 5, moins 7. Il fera moins 1 à moins 3 degrés du Grand Est au Dauphiné et jusqu'à moins 2 sur l'Hérault et les Bouches du Rhône. En journée, 9 à 11 degrés sont attendus du Limousin au sud de la Garonne, 11 à 14 de Perpignan à Nice et à Bastia. Il fera 8 à 9 du Finistère aux Charentes et de 4 à 7 degrés dans l'Est et du Centre au nord de la Seine.
Jean-Michel Golinski de Météo France.